85 Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9 h.
CIBL. 101.
On est le 20 avril, bon début de semaine tout le monde, le week-end a été beau, il a fait chaud, mais il est temps de se rendre à l'évidence, c'est la pluie qui va nous accompagner toute la semaine. Bienvenue aux Aurores Montréal, je suis Jules François. On fête les Odettes aujourd'hui et il y a 492 ans, Jacques Cartier quittait l'Europe en direction du Canada. Ce matin, on aborde plusieurs sujets, notamment une inquiétude dans le milieu de la santé avec l'apparition d'un nouveau type de drogue présente dans le fentanyl, un puissant médicament vétérinaire utilisé notamment pour anesthésier les chats et les chiens. On en parle aux alentours de 9h05 avec un reportage de Nicky Lasserre qui s'est entretenu avec la docteure Catherine de Montigny. On aborde aussi, la semaine de la presse qui commence le 1er mai, organisée par nos confrères de la FPJQ, ce sera vers 9h25 avec le journaliste et animateur Étienne Fortin-Gauthier, que vous connaissez sûrement si vous avez regardé le reportage Entre les lignes, disponible sur Nouveau et Crave, qui comptabilise plusieurs centaines de milliers de vues. Mais avant ça, comme à l'accoutumée, c'est le temps de faire un tour d'horizon des nouvelles qui animent Montréal ce matin. Et pour dire, l'actualité est plutôt calme. On s'intéresse évidemment ce matin aux crues qui ont lieu un peu partout au Québec, mais aussi ici dans la région de Montréal. C'est la rivière des Prairies qui est particulièrement surveillée de notre côté et qui présente un risque de crue important. On parle aussi de l'augmentation de l'inflation qui a augmenté de 2,4% en cause notamment la guerre en Iran et le conflit, en fait l'instabilité au Moyen-Orient, ce qui a causé de nombreuses fluctuations dans les cours normaux comme celui du baril de pétrole, l'or ou encore l'aluminium. Là aussi on parle sur une note plus positive, les faucons de l'Université de Montréal attendent des bébés, on l'a appris ce samedi via la page Facebook dédiée de l'UDM. Vous aurez peut-être aussi remarqué la présence de voix différentes qui vous annoncent certaines stations de métro. Eh bien, il s'agit tout simplement des joueurs du Canadien qui se sont prêtés au jeu à l'occasion des séries dont le premier match avait lieu hier et qui a été remporté. En attendant que cette émission commence et pour commencer la matinée, vous écoutez les Aurores Montréal, c'est Rock et Belles Oreilles. Pourquoi se droguer ? Vous écoutez CIBL 101.5, je suis Jules François.
L'autre jour, j'ai pris de la drogue. Ah non, vraiment, je n'étais pas très sobre. Et quand je prends cette fameuse drogue, je ne me reconnais plus. Je mélange toutes les choses, le vert, le brun, le gris, le rose. Ne me demandez pas mon nom, je ne m'en rappelle plus. Drogue, oui, 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 drogue. Non, 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 drogue. Pourquoi se droguer? Pourquoi se droguer? Yeah! Drogue, drogue, m'a ensorcelé. Du paradis, je possédais la clé. Mais la serrure n'a pas fité. J'étais emborré. Je ne m'acceptais pas tel que j'étais. Dans le miroir, je me trouvais laid. Hey! Maintenant, tout ça, c'est du passé. Par hasard, vous la saluerez de ma part. Contre
la drogue, j'ai gagné le combat. Elle ne pullule plus en moi. Drogue. Oui, oui, oui. Drogue. Non, non, non. Drogue. Pourquoi se droguer? Pourquoi se droguer? Yeah! Drogue. Oui, oui, oui. Drogue. Non, non, non.
Ce matin, on se soucie donc d'un nouvel enjeu de santé publique concernant l'apparition d'une nouvelle drogue, la méthamphétamine, de plus en plus présente dans des drogues fortes comme le fentanyl. Il s'agit notamment d'un puissant sédatif utilisé chez les vétérinaires qui procède à des anesthésies sur des chats ou des chiens et qui n'est pas approuvé à la consommation pour les êtres humains. Afin de mieux comprendre le sujet, c'est notre journaliste Nicky Lasserre et co-animateur qui s'est entretenu avec la docteure Catherine de Montigny.
Bonjour Catherine de Montigny, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir, bonjour.
Un nouveau mélange composé de fentanyl et de tranquillisants vétérinaires est maintenant très présent à Montréal ces dernières semaines. La substance qui est mise en cause, c'est la méthamphétamine, qui inquiète beaucoup les intervenants et la santé publique à Montréal. Catherine, vous travaillez en médecine des toxicomanies au centre hospitalier de l'Université de Montréal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette nouvelle substance?
Oui, ben en fait le fentanyl qu'on retrouve en circulation là sur la rue, c'est pas de qualité pharmacologique. Donc depuis son arrivée là sur le marché québécois, montréalais, mais pas seulement montréalais, vraiment québécois puis canadien auparavant, c'est toujours de qualité assez douteuse, avec beaucoup d'autres substances qui vont venir contaminer ce que les gens croient consommer. Donc, le fentanyl, qui est un opioïde très puissant. Et puis là, régulièrement, on en fait des opioïdes encore plus puissants. Donc, c'est parfois même pas du fentanyl que les gens consomment, mais qui est aussi combiné avec une multitude d'autres substances. Et à chaque fois, c'est un peu une surprise. Hein. C'est vraiment la roulette russe, donc on sait jamais à quoi s'attendre. Et parmi ces substances-là, il y a souvent plusieurs substances qui vont agir aussi comme dépresseurs du système nerveux central. Donc, ils vont aussi amener la somnolence, par exemple, diminution du rythme respiratoire, tout ça. Donc, qui peut contribuer à causer des surdoses. Et là, la plus récente en liste, c'est la fameuse méthamphétamine, qui est un tranquillisant utilisé en médecine vétérinaire, qui n'est pas utilisé en médecine humaine. Donc, c'est pas un médicament avec lequel on est habitué d'agir. Ceci dit, il y a des médicaments en médecine pour humains aussi qui ressemblent à la méthamphétamine, qui sont parfois utilisés dans des contextes, mais dans des contextes médicaux très surveillés. Et là, c'est des doses astronomiques qui se retrouvent. On ne sait jamais d'un échantillon à l'autre ce qui se retrouve vraiment là, dans les substances que les gens consomment.
Mais donc, comment ce tranquillisant pour vétérinaire, il a fait son apparition sur le marché de la drogue?
Ah, ben ça, c'est une excellente question. Il faudrait parler à des gens qui s'y connaissent pour la création de nouvelles substances. Mais c'est complexe, hein, le marché des substances qui se retrouvent en circulation dans la rue. Ça dépend vraiment des approvisionnements, d'où les drogues viennent, comment elles ont été. Parfois, c'est de la contamination involontaire, parfois c'est volontaire. Mais c'est complexe. Puis, nous, on est toujours un peu, tant la santé publique que nous, comme médecins, on est toujours un peu à la remorque, c'est-à-dire qu'on réalise après coup qu'il y a cette nouvelle substance-là qui a été ajoutée. On ne sait jamais pour combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va être une mode qui va être passagère ou est-ce que ça va continuer à teinter les substances qui vont être en circulation? Ça, à chaque fois, c'est une surprise.
Mais justement, vous disiez que le fentanyl qui était déjà présent est une qualité très douteuse. Qu'est-ce qui vous a fait comprendre qu'on n'était pas face à une vague, et je mets des guillemets, habituelle de surdose, mais à quelque chose de différent cette fois-ci?
Oui, alors le Québec, c'est un peu particulier. Hein, le Canada, surtout l'Ouest canadien, a vécu la crise des opioïdes avant nous. Donc, pour eux, ça fait plusieurs années là, que c'est malheureusement, ça fait partie du quotidien. Et puis, il y a eu des vagues, donc tout ça, des fluctuations. au Québec, il y avait de la consommation de d'autres substances. Il y avait bien sûr plusieurs drogues en circulation, mais le fentanyl en tant que tel est arrivé au Québec davantage pendant la pandémie. Là, c'est là où on a vu une arrivée un peu plus importante, et ça a amené des surdoses à ce moment-là, parce que les substances, le fentanyl était beaucoup plus fort que les substances qui étaient consommées auparavant. Donc déjà là, il y a eu un changement là, de paradigme. Ça s'est accompagné aussi avec une multitude de circonstances. Donc, pendant la pandémie, moins de ressources disponibles aussi. Des situations qui étaient difficiles pour tout le monde, mais on peut imaginer que les gens, avec beaucoup de précarité sociale, ben, c'était une période qui était particulièrement difficile, tu sais, qui perdaient les revenus instables, le peu de revenus qu'ils avaient parfois, ils les perdaient, des logements temporaires qu'ils avaient finalement, ils les avaient plus. Donc, c'était une période qui était difficile pour multiples raisons. Puis, ça a coïncidé aussi avec un changement des substances en circulation. Il commençait à avoir beaucoup de méthamphétamines aussi, donc qui sont des stimulants là, qui n'ont rien à voir avec les opioïdes, mais c'est là où on a vraiment vu un changement là, dans ce qui circulait. Et puis plus récemment, avec la médétomidine, là, on a vu un autre pic de surdose où vraiment les gens tombaient comme des mouches. Les surdoses étaient sévères, répondaient partiellement à l'naloxone qu'on peut administrer pour réveiller les gens. Mais on voyait que ça se manifestait pas comme les surdoses qu'on s'était malheureusement habitués à voir. C'est toujours étrange de dire qu'on s'est habitué, mais néanmoins, tu sais, on devient habitué à travailler avec certaines substances, mais là, les gens semblaient présenter des symptômes qui étaient un peu différents. Puis là aussi où ça se manifestait, c'était dans le sevrage qui était vraiment impressionnant. Les gens étaient très, très malades dans le sevrage, puis ça s'est installé très de façon assez brusque. Un peu différente qu'avec les opioïdes, entre guillemets purs, mais les opioïdes sont jamais, ceux qui proviennent du marché noir sont jamais purs. Mais donc, c'est une combinaison de choses qui fait en sorte qui nous a mis la piste à l'oreille, là, à nous, mais au sens large, là, la santé publique et les organismes communautaires également, les utilisateurs eux-mêmes qui ont commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose. C'était quelque chose qui était déjà présent aux États-Unis. Et puis là, on a pu faire les parallèles aussi.
Bah c'est ça, vous disiez justement que c'était un type de sevrage beaucoup plus intense. Je disais dans la presse que vous avez dû administrer des doses qui étaient beaucoup plus élevées que par rapport à d'habitude. Les équipes de santé, elles ne sont pas habituées à traiter ce type de sevrage. Comment est-ce que maintenant vous vous adaptez, ou est-ce que vous êtes encore en train justement de travailler sur ça pour...
Ouais, c'est une bonne question. En fait, le cas qui était discuté dans ce cas-là, bon, il y avait vraiment plein de particularités, mais effectivement, ce qu'on voit, c'est deux choses. Alors, d'une part, les gens, on voit beaucoup de choses, mais focusons sur deux choses pour l'instant. D'une part, les opioïdes en circulation sont très forts. Alors, ça nécessite, quand les gens sont en sevrage, on a des traitements de substitution qui permettent de déstabiliser, mais ça nécessite de devoir utiliser des doses qui sont de plus en plus grandes. Et c'est assez impressionnant. Puis les gens vont être au début inconfortables pendant le temps où on ajuste tout ça. Donc, ça, je vous dirais que c'est quelque chose avec lequel on faisait déjà affaire. Ça faisait déjà partie de notre quotidien, mais ça demeure un défi qui est toujours changeant, là, qui est toujours grandissant, puis qui continue de nous préoccuper. Ensuite, avec la médétomidine qui est rajoutée à l'insu là, des consommateurs, les gens recherchent pas de la médétomidine, elle est là par défaut. Et bien, quand les gens consomment à leur insu de façon chronique, répétitive, si on arrête, il va s'installer un sevrage mixte, un sevrage aux opioïdes qu'on était déjà habitué de traiter, pour lequel on a des molécules étudiées qui fonctionnent bien, malgré que ce soit un défi là, de s'ajuster aux doses toujours grandissantes, mais néanmoins, on a des traitements. Mais pour ce qui est du sevrage de médétomidine, là, ça, c'était nouveau. Puis on peut pas le traiter seulement avec des opioïdes, parce que ça ne répond pas aux opioïdes. C'est une substance qui est différente. Alors, il faut le traiter avec d'autres molécules. Et certaines de ces molécules-là doivent être administrées avec une grande supervision médicale, sous moniteur, etc., parfois même aux soins intensifs. Donc, ça amène tout un lot de défis. Ça, c'est la portion qui est encore pour laquelle on est encore en train de s'adapter. Somme toute, ça se passe bien. On travaille en équipe avec des urgentologues, les gens aux soins intensifs, puis l'équipe de médecine des toxicos au CHUM et à l'extérieur. Puis tout le monde est bien conscientisé, puis on essaie de travailler ensemble pour trouver des solutions, mais ça demeure un défi.
Je comprends. Et le fentanyl, c'est déjà un produit qui est extrêmement dangereux. Il est parfois déjà présent dans d'autres drogues, toujours pour couper la drogue de base. Mais pourquoi justement, c'est quoi l'avantage? Quels sont les effets de la méthotrimine sur le fentanyl? Est-ce que c'est prolonger l'effet? Est-ce que c'est aussi une façon de réduire les coûts peut-être pour les trafiquants? Pourquoi on va modifier la signature du produit de base?
Ça, c'est une excellente question. Il faudrait poser la question aux fabricants. je les côtoie pas intimement.
Est-ce que vous remarquez des effets différents?
Hypothèses. Mais alors, souvent, ce qui va se passer, c'est que bon, il peut y avoir plusieurs hypothèses sur pourquoi les gens décident de faire ça. Est-ce que c'est parce que c'est disponible, ça permet de couper les coûts, puis de créer une sensation qui va être plus intense pour les utilisateurs, puis qui peut même finir initialement, c'est pas ce que les utilisateurs recherchaient, mais au final, ils vont s'y habituer, puis ensuite, ça va devenir possiblement quelque chose qui va être recherché. Mais ça potentialise, dans le fond, les effets des opioïdes, malgré que ça soit pas un opioïde, mais ça a des effets qui sont assez similaires là, à certains égards, puis qui vont augmenter l'effet pour le meilleur et pour le pire. Dans notre cas, c'est surtout pour le pire, parce que justement, il y a beaucoup plus de risques de surdose et puis des sevrages qui sont plus compliqués à traiter par la suite. Mais donc, en termes de création, pourquoi ça a été choisi, ça, c'est une bien bonne question à laquelle j'ai pas de réponse, là.
J'ai vu aussi dans le dossier de la presse que l'analoxone, qui est beaucoup utilisé pour les surdoses de fentanyl, n'a pas d'effet sur ce nouvel additif. Mm-hmm. Pour nos auditeurs et aussi pour informer les gens, quelle est la marche à suivre pour venir en aide si on observe quelqu'un qui fait justement
une surdose? Oui, c'est une super bonne question. Alors d'abord, l'analoxone, c'est disponible partout, c'est gratuit. Vous pouvez vous en procurer à la pharmacie sans prescription. Et puis ne vous inquiétez pas, là, il y a beaucoup de gens qui entraînent sur eux, mais qui c'est pas pour un usage personnel, donc il n'y aura pas de stigma attaché au fait de demander de l'analoxone. Et puis, en somme, l'analoxone, c'est pour renverser l'effet des opioïdes. Et donc, si on voit quelqu'un qui semble vraiment en surdose, donc qui semble ne pas respirer, bien, en administrant de l'analoxone, on va renverser l'effet des opioïdes. Et donc, si c'est les opioïdes qui ont causé la surdose, bien, l'état dans lequel la personne se trouve, eh bien, à ce moment-là, ça permet de lui sauver la vie, là. Donc, c'est un antidote qui est vraiment important. Et si vous et moi, on s'administre de l'analoxone, il n'y arrive rien. Donc, au pire, si on s'est trompé, que c'était pas ça, puis disons que la personne avait fait un malaise mais causé par autre chose, ben ça va pas être délétère. Donc il faut pas hésiter là dans le doute. Bien sûr, il faut pas faire ça, on fait pas ça pour s'amuser, mais néanmoins c'est quelque chose qui est super utile puis qui permet vraiment de sauver des vies. Après, il faut néanmoins appeler les secours. Donc c'est pas suffisant parce que l'analoxone va avoir une durée de vie qui est limitée, mais si la personne a consommé de façon chronique beaucoup d'opioïdes, ben c'est bien possible que l'analoxone arrête de fonctionner et que l'état de surdose revienne. Donc, c'est important de quand même prévenir les secours puis de demander de l'aide. Mais comme la médétomidine n'est pas un opioïde, bien, l'analoxone ne renverse pas l'effet de la médétomidine. Ceci étant dit, ça risque de quand même permettre de sauver une vie si la personne est intoxiquée par probablement une multitude de substances, dont les opioïdes. Mais ça se peut que son état demeure altéré et puis qu'elle ne se réveille pas comme elle se serait réveillée si c'était seulement des opioïdes.
Bah écoutez, merci beaucoup Catherine, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'espère que la situation va s'améliorer pour vous et je vous souhaite une excellente journée.
Merci à vous, bonne journée.
Femme, t'as des pouvoirs, t'es comme une magicienne. T'as des yeux dans le dos, tu peux étirer une scène. Femme, tu fais l'impossible, tu peux te multiplier. Des fois tu ratisses, tu peux même t'effacer. Maman, je pense pas j't'ai née juste pour faire à souper. Femme, la première en ligne pour te t'arranger. T'es plein d'amour, t'es pleine de magie, tu donnes espoir, c'est juste à nous l'indiquer. Dans l'ombre de la gloire, femme, t'es tellement forte, tu fais le monde virer rond, tu crées la vie sans même y donner ton nom. Femme, chaque souffrance, chaque bobo, avec ton écoute puis ton rire. Maman, c'est pas rien que toi qui peux serrer la vaisselle. Femme, petit, c'est le monde avec une ficelle. Tu fais l'amour, tu fais la magie, tu donnes espoir.
Production Nuit d'Afrique vous invite au gala de la 19e édition des Ciné d'or de la musique du monde présentée par Québecor. Rendez-vous le jeudi 23 avril au National dès 20h. Venez soutenir vos artistes favoris et déterminer les prochains Ciné d'or d'argent et de bronze. Les Ciné d'or de la musique du monde, c'est le prix du public qui fait grandir le monde. Pour réserver vos billets, rendez-vous sur cinedor.com.
Bonjour à vous tous, ici Justin Leblanc. J'anime Fleur Bleue, l'émission qui vous fait voyager à travers les fleurons de la chanson québécoise des années 70. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis 15h à CIBL 101.5 FM Montréal.
Excusez-la. Vous aimez le folklore et la tradition? Eh bien, Excusez-la est le rendez-vous tout indiqué pour vous. Il s'agit d'une émission dédiée à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise qui explore différents volets, que ce soit par des entrevues avec les artistes, par leur apparition de nouveautés ou par des chroniques sur des sujets précis. En compagnie de Marc Bolduc, tous les dimanches de 17h30 à 19h. Soyez au rendez-vous et en avant la tradition.
Tous les lundis dès 19h, ne manquez pas la fin du rap sur CIBL 101.5 FM. La fin du rap. Rap!
C'est la 5e saison de Trait d'Union, l'émission intergénérationnelle, avec des membres de toutes les générations. On vous donne rendez-vous le vendredi à toutes les deux semaines, à 14h et en rappel le lundi suivant, à 13h30, sur CIBL 101.5.
CIBL 101.5, Montréal.
9h23, on est de retour, c'est IBL 101.5 Montréal et vous écoutez Les Aurores Montréal. Je suis Jules François, je vous accompagne jusqu'à 10h pour votre début de matinée. On s'intéresse maintenant à l'initiative de la FPJQ qui a lieu tous les ans du 1er au 31 mai, les semaines de la presse, avec le journaliste et animateur Étienne Fortin-Gauthier. Bonjour Étienne.
Bon matin, c'est un plaisir d'être ici.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir aussi de te recevoir. Comme j'étais un peu fébrile ce matin, on en a discuté, je suis fan un peu de ton émission. Là, on a un peu de ma parlé, je l'ai introduit. produit ce matin, mais pour ceux qui nous rejoignent à présent, Étienne Fortin-Gauthier, toi t'es connu parce que tu fais Entre les lignes sur Crave et Nouveau. Ça comptabilise, j'ai dit des centaines de milliers d'écoutes, là, mais est-ce que t'avais des chiffres exacts?
Hein? On n'a pas tout à fait de chiffres, c'est encore mystérieux. Okay. C'est vraiment, on sait que ça fonctionne bien, on est souvent dans le top 10 de Crave.
Ouais, c'est ça.
On a beaucoup de vues aussi sur les YouTube, sur les réseaux sociaux, parce que maintenant il faut se tourner vers ces plateformes-là pour rejoindre tous les publics. C'est ça le défi de notre époque, mais c'est un beau succès entre les lignes.
Ouais. Bon, si ce matin je te reçois, c'est évidemment pour parler de cette initiative de la FPJQ. C'est tous les ans, du 1er au 31 mai. On parle de la semaine des semaines, pardon, de la presse. En quoi exactement ça consiste et pourquoi c'est important aujourd'hui?
Mais le but, c'est de parler du journalisme, de ce qui nous anime. Hein? Le journalisme, c'est extraordinaire.
Oui, c'est sûr.
Et toi, tu le fais aussi chaque matin. C'est parler de ce qui est autour de nous, raconter ce qui préoccupe les gens, les bonnes nouvelles, mais aussi les défis dans notre société, les problèmes. Et donc, les semaines de la presse, comme tu le dis, tout le mois de mai, c'est pas juste une semaine, on y va toutes les semaines du mois de mai. C'est justement une occasion pour les journalistes d'aller rencontrer le public, hein, les gens pour qui on fait ça, et d'avoir des échanges pour aussi se remettre en question. Qu'est-ce qu'on doit faire mieux? Qu'est-ce qu'on doit corriger peut-être dans nos stratégies pour rejoindre le public? On sait qu'il y a tellement de choses qui ont changé dans le journalisme à notre époque. Donc, c'est de parler de l'importance du journalisme dans nos sociétés démocratiques, puis aussi des menaces, parce que des menaces, il y en a avec l'intelligence artificielle. Oui. Et c'est ça le thème de cette année, 100% humain, parce que les journalistes, justement, chaque matin, on se réveille, on fait des appels, on va sur le terrain, alors que ChatGPT fait pas ça.
Non, mais on se pose la question, parce que les semaines de la presse, là, on parle du public, mais à qui s'adresse cet événement exactement? On parle des journalistes, du public?
Au public. Le but, c'est vraiment de parler au public et d'avoir cet échange-là avec les gens pour qui on fait du journalisme, puis aussi les mobiliser peut-être derrière nous aussi dans certaines de nos luttes pour la survie de nos médias. On sait qu'au niveau du financement, c'est pas facile. On sait qu'il y a une plateforme comme Meta qui refuse de mettre des articles de nouvelles sur la plateforme. Donc, ils prennent les revenus publicitaires, Meta et Google. Google a accepté de payer 100 millions aux médias par année, mais Meta refuse de payer. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça a des conséquences sur notre démocratie.
Exactement.
Parce que là, il n'y a pas d'article journalistique sur Facebook et Instagram. Et donc, on laisse le terrain libre à la désinformation.
On parle aussi des types d'activités, là, rapidement. Il y a un match de la LNI. C'est les journalistes qui vont affronter cette ligue d'improvisation. Il y a aussi le festival de Carleton-sur-Mer. Il s'organise dans ce contexte-là, les semaines de la presse. Qu'est-ce qu'on attend d'autre? Il y a des conférences aussi,
Il y a aussi une grande journée, justement, le 30 mai. L'info, ça se discute avec vous. Donc ça, c'est dans plusieurs villes au Québec. À Montréal, ça va se passer donc le 30 mai de 14h à 16h à la Bibliothèque Rivière-des-Prairies. Donc c'est un moment d'échange. On va regarder avec le public des reportages et là, on va avoir une discussion sur leur réaction au reportage, leurs questions, pourquoi il y a certains angles qui n'ont peut-être pas été abordés. Et on va leur expliquer que souvent, on a des temps limités pour faire nos reportages. On va avoir vraiment une discussion, puis peut-être leurs critiques aussi. Il y a peut-être des choses qu'on peut travailler, améliorer. Donc c'est vraiment une grande journée partout au Québec, dans plusieurs villes, d'échanges entre le public, les citoyens et les journalistes. Là.
Justement, on en parle de cette provocation. Qu'est-ce qu'on cherche à provoquer chez les citoyens avec cette initiative-là?
Mais on veut justement qu'ils se sentent impliqués, qu'ils comprennent que le journalisme, là, si on le fait, c'est justement pour eux, pour qu'on reflète le mieux possible le quotidien des Québécois. T'sais, et je pense que le but, nous, c'est de faire entendre le plus de voix possible. Peut-être qu'il y a certaines voix par le passé qu'on n'a pas fait assez entendre. Moi, tu l'as vu dans mon épisode sur les jeunes et la religion.
Oui,
j'ai été rencontrer des jeunes religieux, des musulmans qu'on voit pas souvent dans les médias, des jeunes chrétiens évangéliques. Et le but, c'était justement d'avoir ce contact-là avec eux, d'avoir un échange, de leur poser des questions pas nécessairement faciles, mais on avait cet échange-là. Et c'est ça qui est important, d'avoir tous les points de vue dans nos médias pour pas qu'on ait ce qui se passe aux États-Unis, se fausser en deux groupes. Hein, aux États-Unis, on voit que la droite, la gauche et les gens ne se parlent plus. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'avoir un échange et de la communication. Puis nos médias, ça doit refléter cette diversité-là des points de vue.
On a l'impression d'ailleurs qu'on se tourne vers un type de journalisme plus organique, plus en mouvement. Est-ce que toi aussi, tu as cette impression-là, notamment avec Entre les lignes? C'est l'émission, toi, on est plus en mouvement, on n'est pas vraiment sur un topo, une entrée, une sortie. C'est plus,
c'est vrai.
Organique.
Mais tu as entièrement raison. Je pense que les médias sociaux ont tout changé. T'sais, avant, c'était le journal télé, le téléjournal, la presse écrite. On allait un peu dans une direction. On donnait le contenu aux gens. Les gens le lisaient le matin ou le regardaient le soir. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça a tout fait éclater. Les gens prennent la parole de manière chaotique, des fois sur TikTok, sur Instagram. Ouais. Et nos médias, on doit un peu refléter toute cette diversité de points de vue-là. Et donc, il faut changer notre manière de faire de l'information. Donc oui, s'appuyer sur les médias sociaux pour tirer du contenu, faire entendre ces voix-là qu'on n'entendait pas avant, mais aussi dans les moyens de production, ouais. de diffusion. Mais c'est un grand défi pour les salles de nouvelles à notre époque, parce qu'avant, on avait un canal de diffusion, l'article écrit et ensuite la télé. Mais maintenant, il faut faire des vidéos Instagram, des vidéos TikTok, des vidéos YouTube, il y a des balados, alors qu'on n'a pas plus de journalistes, au contraire.
Mais moi aussi, je me pose la question, on a nos confrères de RAD, par exemple, ou de ici, chez Nouveau, oui. Ils font beaucoup, mais ce que je disais, du goût de journalisme oui. organique, oui. plus,
terrain,
plus oui. terrain. Oui. Est-ce que c'est aussi, ça permet de démystifier le travail du journaliste? Tu sais, le journaliste, oui. là, souvent, il a été mis sur un piédestal.
Oui.
Sur,
oui.
Il venait raconter la nouvelle. Est-ce que maintenant, on se tourne plus vers un journalisme où on accompagne les gens?
Je pense que oui, il faut changer le ton, et c'est ce que dont tu parles, Rad, ou moi, on essaie d'être beaucoup plus humain et de casser effectivement ce rôle-là d'enseignant, hein, de professeur, ouais. quelqu'un qui a la vérité. La vérité, elle est un peu partout dans nos rues, puis il faut être très humble. Et je pense que c'est un bon point. Les journalistes, à notre époque, on doit plus que jamais être humble. Et cette manière de raconter plus humaine, de terrain, où on se questionne, moi, dans mes reportages, on voit mes questionnements, on voit mes surprises, on voit mes émotions, ça humanise aussi le reporter. Et je pense qu'il faut garder ce lien-là très proche du citoyen, parce que c'est pour lui qu'on fait ça.
Mais justement, ça en venait aussi à ma question. Est-ce que ça permet de créer un dialogue entre le journaliste et le citoyen? Est-ce qu'il faut créer un dialogue entre le journaliste et le citoyen?
Absolument, il faut ce dialogue-là, parce que, comme je dis, on doit être le miroir de leurs préoccupations. Et donc, moi, les sujets, par exemple, lorsque je fais des sujets, c'est basé sur mon quotidien, ouais. qu'est-ce que je vois dans la rue à Montréal, et tous mes collègues aussi des autres médias. Tu sais, la presse récemment a sorti un reportage sur les femmes itinérantes enceintes. Donc, c'est une journaliste qui a raconté cette réalité-là qu'on voit dans les rues de Montréal. Donc, il faut que notre travail reflète le quotidien des gens. Moi, tous mes sujets, c'est des choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux, que j'ai vues dans mon quotidien. Donc, effectivement, il faut absolument avoir ce lien-là avec le quotidien des gens, leurs préoccupations. La crise du logement, on en a abondamment parlé dans les médias, parce que c'est un sujet majeur. Les gens ont de la difficulté à payer leur épicerie, ont de la difficulté à payer leur logement. Donc, ça doit, oui, monopoliser nos médias, parce que ça monopolise les préoccupations des gens.
Mais d'ailleurs, des préoccupations, t'en parles beaucoup, c'est un peu ce que Entre les lignes fait. Oui. Il s'occupe des préoccupations des gens. Il y a un reportage qui est dédié aux paramédics. Oui. Il y a un reportage qui est dédié à la protection de la frontière. C'est des sujets qui importent les gens actuellement. Qu'est-ce que t'en as retiré, toi, de ces expériences-là?
Oui. Mais d'abord, je dirais que ça m'a beaucoup touché, justement, ces deux sujets-là. On a parlé aussi dans ces épisodes-là des jeunes exploités sexuellement. Donc, ça a été trois sujets très difficiles, honnêtement. Santé mentale des paramédics, les migrants qui meurent à la frontière et les jeunes exploités sexuellement. C'est des sujets difficiles, mais qui racontent quelque chose de notre époque. C'est une époque de crises multiples. Hein? Il y a des crises partout dans le monde entier, mais chez nous aussi. Et qu'est-ce que ça m'a ébranlé. Ça m'a ébranlé, ces reportages-là, parce que c'était tellement de souffrance humaine. Et je pense qu'il faut en parler. Et ce qui m'a touché, par contre, c'est que c'est du journalisme d'impact. Dans le cas des paramédics et la santé mentale, il y a eu plusieurs retombées. Ça a été beaucoup partagé dans la communauté des paramédics qui ont dit que c'est une des rares fois où on parlait de cette réalité-là, des suicides. Alors, je pense qu'une première étape dans un problème, c'est de nommer le problème et d'en parler. Et je pense que ça a fait tomber des tabous. Et dans le cas de notre reportage sur les jeunes exploités sexuellement, il y a une jeune fille qui a vu le reportage dans une école et qui a ensuite dénoncé son agresseur. Donc, voici du journalisme d'impact qui peut faire une différence. Et tous mes collègues des autres médias sont animés par cette même passion-là. Ouais. Et ce désir de changer le monde, pas pour influencer politiquement les gens, mais pour changer le monde à notre façon, puis faire des petits changements, éveiller les consciences sur des sujets de droits humains, par exemple.
Est-ce que tu as l'impression aussi que de tourner ce genre de sujet, ça permet aussi à ce que les gens reconnectent avec les journalistes? On a trop longtemps eu un lien qui a été brisé, notamment pendant la pandémie. Ça a été la grosse période où les gens ont perdu confiance dans les médias, pardon. Est-ce que tu penses que ça permet aussi de recréer un lien avec les gens?
Je pense que oui, c'est ça. Redonner la parole au plus de gens possible. C'est ça l'objectif. Mais t'as entièrement raison. Parler de ces sujets-là qui touchent les gens et donc ils peuvent comprendre qu'on est comme eux. On est des citoyens qui sont imparfaits aussi. Oui. Donc ça se peut qu'on fasse aussi des erreurs. Mais la beauté de la chose dans notre profession, c'est qu'il y a quand même des cas de déontologie. On peut faire une plainte à l'Ombudsman à Radio-Canada.
C'est ça, absolument.
Il y a le conseil de presse. Donc on est quand même sous surveillance et c'est bien. Et le but, c'est c'est d'avoir ces débats-là, ces remises en question-là. Et puis, donc oui, de garder ce lien-là, et il faut pas le perdre. Parce que je pense que ce qui s'est passé, c'est que les jeunes se sont éloignés du journalisme parce que ben, les formats ont changé, ils n'écoutent plus les bulletins de nouvelles, et on n'a pas été peut-être assez rapide à aller sur les plateformes comme TikTok ou Instagram. Mais là, il faut y aller. Et j'invite tous les journalistes à inonder ces plateformes-là de journalisme de qualité, comme on le fait avec les 1400 membres de la FPGQ, puis aussi avec des milliers d'autres journalistes comme ceux de la GIC et tout ça. Là.
Ben, c'est ça. On pourrait en discuter longtemps. Malheureusement, on manque de temps. On va rappeler rapidement les informations. Donc, les semaines de la presse, c'est partout au Québec.
Absolument.
Du 1er au 31 mai, c'est bien ça?
Et avec cette grande journée de discussion le 30 mai un peu partout au Québec. Et le 5 mai, c'est ce match d'improvisation. Vous pouvez prendre vos billets.
Je vais être là.
Ah oui, ça va Cabaret du Lion d'Or. Ça va être un plaisir de te retrouver. Puis tous les gens qui nous écoutent peuvent aussi se prendre des billets au Cabaret du Lion d'Or. Donc, c'est 5 mai, 19h, avec des vedettes de la LNI et des journalistes québécois. Et l'an dernier, c'est les journalistes qui ont gagné le match.
J'espère que ça va être encore le cas cette année. En tout cas, moi, je vais être un peu biaisé.
On t'a dans notre cas, c'est bien. Puis l'important, c'est le journalisme, que le journalisme gagne.
Bon, il est 9h35. Vous continuez à écouter les Aurores Montréal. Merci, Étienne Fortin-Gauthier, d'être avec nous. On retrouve vos reportages, entre les lignes sur Nouveau et Crève. Merci d'avoir été présent. C'est Vermeil. Si je ne suis pas, vous écoutez CIBL 101.5, les Aurores Montréal. Je suis Jules François. Il est 9h39, on s'intéresse maintenant à un rapport sur la sécurité publié par le CSQ, la Centrale des syndicats du Québec. C'est une entrevue de Juliette Aliment.
Bonjour, monsieur Éric Gingras. Vous êtes le président de la Centrale des syndicats du Québec. Vous avez convié les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse pour dévoiler les résultats d'une étude menée par la firme Léger auprès de la population québécoise portant sur la sécurité, l'incivilité et la violence, bien sûr. Alors, monsieur Gingras, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ces résultats issus de ce sondage?
Absolument. Alors, merci de me poser la question. Écoutez, ça fait plusieurs années que la CSQ lève des drapeaux rouges sur la violence dans nos milieux de travail, notamment dans notre réseau scolaire, mais aussi en santé, au collégial. Et là, ce qu'on voulait faire, c'est aller voir auprès de la population, c'était quoi le sentiment face aux incivilités, face à la sécurité, face à la violence. Et les chiffres sont clairs, on est à un tournant, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que les gens nous disent aux deux tiers, donc plus de près de 67% nous disent que ils ont senti une détérioration du climat d'incivilité au cours des dernières 5 années. Et même chose au niveau de la violence, ce sont les mêmes chiffres, 67%. Et en plus de ça, plus de 55% disent qu'ils pensent que pour les 5 prochaines années, ça va continuer à se détériorer. Donc, quand je parle de croiser des chemins, ça démontre clairement là, que on sent un changement. Et bien sûr, nous disent du même coup qu'ils pensent que c'est une priorité de s'occuper de la violence, de l'incivilité, de la sécurité au Québec à 85%. Ça, je pense que ça aussi, c'est parlant. Mmh.
S'occuper justement de la violence, c'est un des points qui, j'imagine, a été développé. Donc, quels sont justement les secteurs les plus touchés par cette violence, notamment par les membres de la centrale des syndicats du Québec?
Bien, je vous dirais que les chiffres sont assez clairs sur le fait que le sentiment de violence est, concernant la sécurité, la violence et l'incivilité, c'est un sentiment qui est partagé partout à travers le Québec, à peu près les mêmes chiffres. Ce que ça démontre, et c'est quand même bien, là, on est encore une société qui est quand même sécuritaire. Je vais vous donner un exemple. Il y a quand même 91% de la population qui se considère en sécurité à la maison. 77% de la population se trouve en sécurité dans son quartier. Par contre, du même coup, ils nous disent que sont conscients. Ils ont été témoins d'incivilité à 48%, de violence à 28%. Donc, on voit, et même qui ont été eux-mêmes victimes de violence à 10%. Et ça veut dire sur une population de près de 9 millions d'habitants, ça veut dire près d'un million de personnes ont déjà subi de la violence. Alors, on voit que c'est un problème de santé publique. Il faut être en mesure d'intervenir, puis on ne sera pas capable, comme syndicat, de le faire seul. On aura besoin de le faire avec l'ensemble de la société et des acteurs de cette société-là.
Et justement, par rapport à ce que vous exprimez tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut dire justement que la violence est en train de devenir une réalité normalisée dans certains milieux de travail alors au Québec?
Je vous dirais que les chiffres sont encore intéressants dans le sens qu'au travail, les chiffres sont encore relativement bas. On voit que, par contre, dans le milieu de travail en première ligne, qui côtoie bien souvent des gens en crise, des gens dans le besoin, des gens plus démunis, notamment dans nos réseaux de la santé, d'éducation, etc., bien, on voit que ça augmente. Les chiffres sont plus élevés. Donc, on voit bien que ces problèmes-là sont bien présents dans la société. Et l'autre élément qui est important, c'est qu'on voit qu'un catalyseur, c'est vraiment les médias sociaux, le numérique, où 82% estiment que ce contexte social numérique-là a un impact, une influence sur l'incivilité et la violence dans le monde réel, dans notre société en général, et ça doit être pris en compte aussi.
Et est-ce que le sondage évoque justement des différences marquées selon le genre, l'âge ou le type d'emploi? Qu'est-ce que cela révèle sur les inégalités?
Bien, je vous dirais que la région de Montréal est un peu plus élevée. Pas beaucoup. On parle de quelques points de pourcentage. L'endroit où la différence est un peu plus marquée dans le sentiment de sécurité, dans le sentiment que la violence est un peu autour de nous. Ben ça, c'est chez les femmes où là, c'est une augmentation des fois de l'ordre de près de 10% qui montre une plus grande prévalence, une plus grande présence chez les femmes qui répondent à ce sondage-là. Et ça, pas surpris, on sait que c'est dans la société en général, on sait que c'est dans les médias numériques, on a entendu parler dans les médias sociaux beaucoup, mais on voit que dans la société, il y a un sentiment un peu d'insécurité un peu plus élevé chez les femmes. Vous savez qu'à la CSQ, on représente plus de 80% de nos membres sont des femmes. Donc, on voit très bien qu'on doit avoir une attention particulière, pour ça. Et donc, on voit que ces éléments-là sont quand même importants. Mais on voit qu'à la fin, c'est tout le monde, hein? Parce que ça, c'est une question importante. On a demandé qui doit intervenir. 70% ils pensent que c'est individuellement qu'on doit le faire. Oui, les gouvernements, après de 22%, les gens nous disent que le gouvernement doit agir. Ça, on sent que c'est un leadership des élus. Mais on sait que c'est tout le monde qui doit être en mesure d'intervenir.
Et comment expliquez-vous cette montée de la violence dans les milieux professionnels? Vous avez bien sûr parlé de la situation des femmes. Est-ce lié à des facteurs sociaux plus larges?
Malheureusement, on n'a pas été en mesure de questionner les aspects plus qualitatifs. On était dans le quantitatif. Mm-hmm. Mais oui, ça gagne à être fouillé. C'est pour cette raison-là qu'on parle d'enjeux de santé publique. Donc, pour que différents groupes puissent intervenir là-dessus. Puis, d'un autre côté, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est des pistes de solutions. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est travailler avec les organisations patronales, avec les élus, peu importe, quel qu'ils soient, que ce soit municipal, provincial, fédéral, on doit être en mesure d'avoir un plan clair. Puis, on s'attend à ce qu'aux prochaines élections, ça fasse partie des enjeux. Je l'ai dit, 85% de la population estime que ça devrait être une priorité, puis on s'attend que les partis politiques nous amènent des plans clairs aux prochaines élections.
Et cette violence-là a-t-elle justement un impact particulier sur la santé mentale et la rétention du personnel? Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ce point-là?
Absolument. Ben oui, effectivement. Puis ça, on l'a vu, puis on a des chiffres de la santé et de la sécurité là, en milieu de travail, de la SNES, où c'est très clair lorsqu'on fait le rapport, puis quand on fait les rapports de la SNES, c'est souvent pour l'année qui précède, on voit l'augmentation des dénonciations concernant justement des problèmes de santé mentale en lien avec ça. Et donc, ça nous démontre clairement qu'il y a une montée, il y a une augmentation de ça dans la vie de nos membres. Et ça, c'est quelque chose, mais vous savez, on sera pas capable d'intervenir seul. Ce qui se passe dans une école, ce qui se passe dans un hôpital, si l'ensemble de la société n'est pas au jeu, c'est pas une politique ou une intervention d'un patron qui, peut-être à court terme, va régler les choses, mais ça doit se faire dans la société par tout le monde en même temps.
Et juste, quel est aujourd'hui le rôle que peut jouer le gouvernement du Québec par rapport à ça?
Bien, premièrement, c'est de s'assurer que comme politicien, comme politique, on baisse le ton, qu'on s'assure d'être rassembleur, qu'on propose des choses, des pistes, et qu'on en fasse réellement un enjeu où on se dit qu'au Québec, ben c'est intolérable, puis après ça, qu'on mette tout le monde ensemble et trouver des pistes de solutions. Mm-hmm. C'est ce leadership-là, comme organisation syndicale, qu'on veut demander au gouvernement de jouer, et c'est pour ça qu'on espère que les prochaines élections, on sera au rendez-vous pour ça.
Et vous avez parlé du gouvernement, mais on ne peut pas faire fi justement du rôle des employeurs dans ce secteur-là. Est-ce que vous les intégrez? Est-ce que vous projetez de discuter avec eux par rapport à cette situation pour protéger, j'allais dire, les employés?
Absolument. Puis pas juste les employeurs de nos différents réseaux et pas juste les employeurs des entreprises, mais vraiment les associations patronales, la Fédération des chambres de commerce, les organisations de manufacturiers. Tout le monde doit être au jeu quand vient le temps de parler de la violence. Et c'est seulement là qu'on va réussir à réellement trouver des pistes de solutions qui sont intéressantes et importantes et qui vont réellement créer un changement dans la société.
Et vous en avez parlé, les pistes de solutions. Justement, qu'est-ce que va proposer la centrale des syndicats du Québec par rapport à l'encadrement des situations de violence?
Ben, seul, on n'est pas capable de rien proposer. Je vais être franc avec vous, là. Quand même que je propose quelque chose demain, si ça a lieu dans une école, etc. Mais après ça, à la maison, dans le milieu de travail des parents, etc., ben, la violence est tolérée ou il n'y a pas d'interventions qui sont faites. Si sur les médias sociaux, on tolère n'importe quoi, comme c'est un peu le cas présentement, peu importe ce que je propose, ça ne donnera rien. C'est pour cette raison-là que je dis, on ne peut pas faire seul. Ça, seul, il faut être avec les autres intervenants, puis c'est ce qu'on souhaite dans les prochains mois. Puis c'est ce qu'on va tenter de faire dans les prochains mois, de mettre tout le monde au rendez-vous, pas être capable d'intervenir tout le monde ensemble.
Tout à fait. Et quel message souhaitez-vous envoyer aux travailleurs et travailleuses qui vivent ou craignent des situations de violence au quotidien?
Bien, c'est qu'à court terme, on intervient dans les milieux, que ce soit la centrale, mais aussi d'autres organisations, avec les patrons, pour s'assurer que ça soit pris en charge. Puis ça, il y a différentes politiques qui existent. On travaille là-dessus au quotidien avec nos collègues des fédérations, avec nos collègues des syndicats affiliés, notamment dans le réseau scolaire, mais aussi dans le collégial, puis en santé et ailleurs. Mais ça, c'est du court terme. Ça, c'est s'assurer que les gens soient pris en charge, s'assurer que il y a des interventions qui soient faites. Mais une fois que j'ai dit ça, bien là, le reste après ça, puis c'est pour cette raison-là, c'est ça la prise de parole aujourd'hui. Bien, il faut que ce soit tout le monde, partout dans la société.
D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Gingras. Je rappelle que vous êtes le président de la Centrale des syndicats du Québec. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Toujours un plaisir. Merci à vous. Bonne
journée. Merci. Passez une bonne journée.
Ne me quitte pas des yeux. Prends ma main si tu veux. Ne regarde surtout pas en bas. Non. Ne me quitte pas des yeux. Ne me quitte pas des yeux. La tempête hurle et nous sommes au milieu. Bien qu'elle détruise tout sur son passage, dans cette chambre d'hôpital, nous serons deux à lui faire barrage. Est-ce que j'hallucine? Serais-je enfin heureux? Malgré les projectiles qui fusent autour de nous deux. Pour une fois, je suis invincible. Pour une fois, tu peux me suivre. Ne me quitte pas des yeux. Je ne sais pas ce que c'est d'être un homme. Mais pour toi, je ferai de mon mieux. Laisse les garçons à la porte. Oh, ne me quitte pas des yeux. Bête de somme ou créature de confort. Pour toi, je soulèverai des tonnes. Ne me quitte pas des yeux. Est-ce que j'hallucine? Serais-je enfin heureux? Malgré les projectiles qui fusent autour de nous deux. Je suis invincible. Pour une fois, tu peux me suivre. Ne me quitte pas des yeux.
Il est 9h56, vous écoutez toujours les Aurores Montréal à CBL 105. Je suis Jules François, il est maintenant temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée. Ça a été un plaisir d'avoir pu vous accompagner de 9h à 10h comme tous les matins. Demain, vous retrouvez évidemment l'émission 9h-10h, Nicky Lasserre qui animera cette émission. Je remercie mon metteur en ondes, Camille Obasquan Ruiz, qui était avec moi. Hey, je l'ai fait rire, c'est bon, je le vois dans la cabine. Merci à tous, merci à ceux aussi qui nous suivent en webdiffusion. Depuis ces deux derniers jours, on fait des tests, vous inquiétez pas, ça devrait commencer à se mettre dans l'ordre. Merci de nous avoir accompagnés et très très bonne journée à tous, salut!
B14. En plein cœur du quartier des spectacles, à tous les dimanches 13h, c'est le Bingo Radio de CIBL avec 3 500 $ à gagner!
Bingo, bingo! Bingo, bingo! Bingo, bingo!
Tous les dimanches, 13h sur les ondes de CIBL. Bingo, bingo, bingo!
B-N-G-O, bingo! B-N-G-O, bingo! B-N-G-O, bingo! Bingo!
Procurez-vous vos livrets du Bingo Radio dans le sud-ouest Verdun, Pointe-Saint-Charles au dépanneur Centre et 7 jours à RJK et à la tabagie Variété Manque. Pour connaître tous les points de vente, c'est IBL105.com.
Le Fil du Monde, c'est votre émission d'information internationale à CIBL. Chaque mercredi, écoutez Philémon Lafrenière-Prémont, Michael Demers et Maëlle Brunet décortiquer les événements de la semaine autour du globe. On se penche sur les inévitables, Ukraine, Gaza, États-Unis, France, oui, mais aussi sur des pays, des enjeux et des conflits laissés de côté par les grands médias. Le Fil du Monde, ça se passe les mercredis de 19h à 20h, en rediffusion les lundis de 10h à 11h sur les ondes de CIBL 101.5.
Plongez dans l'univers du rap québécois chaque lundi de 17h à 19h sur CIBL 101,5 FM avec On s'en rap. Découvrez les talents francophones qui façonnent la scène musicale actuelle. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. On s'en rap, c'est votre émission.
Bonjour à vous tous, ici Justin Leblanc, j'anime Fleur Bleue, l'émission qui vous fait voyager à travers les fleurons de la chanson québécoise des années 70. Que ce soit du folk au psychédélique en passant par le progressif, les boîtes à chansons et les discos, c'est un rendez-vous tous les mercredis 15h à CIBL 105 FM, Montréal. Rediffusion les dimanches 20h.
Le quatrième mur.
Bon, Siri, c'est quoi, mettons, là, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h?
Le quatrième mur.
CIBL.
Vivre Montréal.
Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 105, au cœur de Montréal.
L'émission qui suit vous est offerte en...